Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, le Seigneur se montre. Le Seigneur se montre comme le Messie, comme étant celui qui doit sauver son peuple. Et voilà qu'une question achoppe immédiatement. Pour qui vient-il ? C'est la question à laquelle il répond ici de manière un peu vive et même dure vis-à-vis de ceux qui étaient prêts à l'accueillir avec une grande joie. Je vous propose de voir d'abord que c'est bien le Messie d'Israël et dans un deuxième temps qu'il est la lumière des nations, c'est-à-dire qu'il vient pour tous. Tout d'abord, il n'est pas douteux que le Messie vienne d'Israël. J'espère que vous n'en avez pas de doute. Le Christ ne vient pas par hasard dans le peuple d'Israël, c'est une préparation de toujours. Dès la chute, le Seigneur a décidé de poursuivre son plan de salut, son dessein éternel de se concilier l'homme, et dès la chute, il a prévu qu'il enverrait son Fils unique, mais pas n'importe comment, qu'il l'enverrait en préparant sa venue, en l'annonçant, et qu'il se constituerait même un peuple pour cela. Le peuple d'Israël, le peuple hébreu, est né pour voir naître le Messie. Ce peuple est né à partir de rien. Le Seigneur aurait pu choisir un peuple puissant, nombreux, des Babyloniens, des Assyriens, enfin, les gens de l'époque. Il n'en a rien été. Le Seigneur s'est suscité un peuple grâce à la foi d'un homme, Abraham, qui était un chef de tribu, assez riche, si l'on en croit l'Écriture, puisqu'il avait de nombreux troupeaux, qu'il était vieux et qu'il aspirait à s'établir en un lieu, en Aram, et y rester. C'est le Seigneur qui est allé le chercher, qui, à partir de lui, à partir d'une promesse inouïe pour manifester sa puissance, lui a dit « À partir de toi, alors qu'il est, sa femme était stérile et qu'il était vieux, à partir de toi, je vais susciter un peuple. » La parole du Seigneur est si puissante qu'il crée à partir de rien et que la parole du Seigneur ne s'est pas éteinte car ce peuple, aujourd'hui encore, existe et il est très nombreux. Voilà pour nous rassurer sur les desseins du Seigneur. Ils sont éternels et ne peuvent diminuer en intensité en raison du temps car le Seigneur est le maître et de la terre et du temps. Un peuple ardent à faire le bien, c'est-à-dire un peuple désireux de voir naître le Messie. Mis à part des nations, les nations dans l'Évangile, dans l'Écriture en général, c'est-à-dire les païens, terme qui n'a pas initialement le côté aussi péjoratif qu'il peut avoir aujourd'hui, en tout cas c'est ceux qui ne sont pas juifs, les goïms. Voilà que ce peuple se prépare depuis toujours à recevoir le salut en son sein. Et comme vous l'avez entendu, déjà, il expérimente que ce salut sera pour tous. Les prophètes qui sont toujours chargés de dire de manière désagréable au peuple la vérité l'ont déjà signifié par Élie et par Élisée, qui, grands prophètes qu'ils étaient, considérés dans leur peuple, ont produit des miracles, mais pas pour ce peuple, pour des étrangers, c'est-à-dire des non-juifs. Alors, il nous faut nous garder de deux erreurs que l'on a connues dans l'histoire et que l'on peut connaître encore. La première serait de croire que nous n'avons plus besoin de l'Ancien Testament. Parce que, comme maintenant nous connaissons le Christ et nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Christ, puisqu'il est venu, puisque maintenant avec lui nous avons toute chose, nous pourrions gentiment oublier l'Ancien Testament. Alors à Saint-Roch, vous ne pouvez pas, bien entendu. Les paroissiens de Saint-Roch qui tiennent beaucoup à leur église savent que ce n'est pas possible puisque on a disposé, certes dans la pénombre, certes derrière cet autel, mais tout de même, de manière certaine, une arche d'alliance pour nous rappeler sans cesse que le Christ vient bien de la promesse faite à Israël qu'elle verrait naître le Messie, salut pour toutes les nations. On ne peut se passer de cette fondation, comme le disait Jean-Paul II, si vous ne comprenez pas le Christ à la lumière de l'Ancien Testament, eh bien vous pensez qu'il est tombé du ciel comme un météorite, vous ne pouvez pas le comprendre. Oui, nous ne sommes pas martionnistes, c'est une hérésie des premiers siècles, par un prêtre qui s'appelait Marcion, tout simplement, et qui s'était dit, maintenant que le Christ est arrivé, plus besoin de s'embêter à lire tout l'Ancien Testament, la Torah, le Deutéronome, le Lévitique, car c'est trop fastidieux, allons directement et simplement aux évangiles. C'est une erreur qui malheureusement a vu quelques renaissances au XXe siècle, en raison d'une autre disposition, c'est que, en raison de la progression de la foi en Inde et en Chine, eh bien d'aucuns se sont demandé sur des néo-martionnistes en quelque sorte, se sont dit mais on pourrait peut-être prendre le taoïsme comme fondement avant le Nouveau Testament, donc pas besoin de l'Ancien. On pourrait prendre peut-être aussi la Bhagavad Gita, le livre saint de l'Inde, comme le fondement, et après annoncer le Christ. Eh bien non, ce n'est pas possible. Il nous faut passer par là où est passé le Christ, non pas qu'on ne puisse pas se renseigner dans les livres de Tao, non pas qu'on ne puisse pas se renseigner dans tous les livres saints de tous les temps, pour y déceler la venue de la vérité, les semens verbi, comme dit le Concile Vatican II, des semences du Verbe, parsemées ça et là dans toute révélation ou toute connaissance de Dieu. Mais nous devons emprunter le chemin du Christ, c'est-à-dire passer là où il est passé. Voilà une erreur qui serait d'oublier l'Ancien Testament. L'autre erreur, évidemment, il y a toujours des erreurs d'un pendant et de l'autre, serait de croire que l'Ancien Testament est une chose et que le Nouveau en est une autre, et qu'ils sont sans relation. C'est une erreur aussi répandue, mais aussi grave, qui ne nous ferait pas comprendre finalement le Christ à la lumière des Testaments. Alors voilà, ici, on reçoit le Seigneur dans son village, on le reconnaît comme un prophète, on s'étonne qu'il soit le fils de Joseph, et on s'en enorgueillit. Ne croyez pas qu'ils n'ont pas pu le recevoir, car ils étaient tous désireux de l'entendre et lui rendaient témoignage. C'est donc qu'ils le reconnaissent bien. Mais voilà leur problème, et c'est la dernière erreur que je voudrais évoquer dans ce premier point, c'est l'autre erreur qui va courir tout au long de l'Évangile, vous le savez bien, et contre laquelle le Christ va se battre avec la dernière énergie, c'est de penser que ce salut annoncé par le Christ, réalisé par le Christ, est un salut messianique temporel et qu'il vient pour restaurer la royauté en Israël, libérer Jérusalem de l'emprise des Romains et enfin établir une paix pour le peuple hébreu. Ils vont être déçus, évidemment, et ils sont même ici, dit le Seigneur, furieux. Car le Seigneur n'est pas venu pour cela. Vous le savez, tout au long de l'Évangile, il va refuser qu'on l'acclame comme un roi, alors que de nombreuses fois on le voudrait, fils de David, lui dira-t-on plusieurs fois. Il n'acceptera qu'au dernier moment, à l'entrée à Jérusalem, quand il sera bien clair que cette royauté consiste en un service et que ce service passe par la mort sur la croix, de mourir pour ceux qu'il va sauver. Oui, le messianisme temporel que visent les contemporains du Christ est une réduction de Dieu à un pouvoir politique, et c'est une tentation de l'histoire, pas seulement chez les Juifs, hélas, mais dans toute notre histoire à nous, en passant par toutes les emprises du pouvoir politique sur l'Église, son asservissement, soit son rejet, bref, une tentative d'établir Dieu sur terre. Nous ne pouvons avoir d'autre Dieu que le ciel, c'est-à-dire celui qui dépasse toute chose. Dieu n'est ni un programme politique, ni une organisation politique. Voilà l'erreur contre laquelle le Seigneur va achoper au tout début de son ministère. C'était mon premier point, et il est important que nous nous replongions sans cesse dans la lecture de l'Écriture, de l'Ancien Testament, pour goûter et comprendre d'où vient le Christ et comment il nous a été donné, pour comprendre la mission qui est la sienne. Mais elle ne se limite pas à son origine. Il a un but, il est de sauver toutes les nations. Ces nations, alors que nous venons de fêter la Chandeleur, eh bien c'est nous. Nous sommes les descendants des païens, nous pouvons aussi être les descendants des Juifs convertis, car tous les premiers tous ceux qui ont suivi le Christ à ses débuts étaient juifs, bien entendu. Très vite, des païens se sont agrégés. Il y en a dès le début qui sont notés dans les Actes des Apôtres, mais on voit bien qu'ils sont d'abord l'exception. C'est d'abord à partir d'Israël, le salut vient des Juifs, que la grâce pour toutes les nations a été annoncée. Mais voilà, c'est pour toutes les nations. Nous venons de fêter la lumière du Christ qui vient, et symboliquement nous l'avons portée dans des chandelles, cette fête de la chandeleur, comme étant ce qui nous éclaire. Mais ce qui nous éclaire, ne commettons pas de nouveau l'erreur de nous renfermer en pensant que c'est ce qui éclaire simplement la conscience des chrétiens baptisés qui seraient les seuls à pouvoir comprendre le Christ. Non, c'est la lumière pour toutes les nations, cela reste vrai, c'est-à-dire la lumière pour les juifs, la lumière pour les païens, la lumière pour les chrétiens, la lumière pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cette lumière, nous voulons la porter, cette lumière du Christ, partout au travers des routes du monde. Nous ne voulons pas arrêter de montrer cette lumière, car nous ne voulons pas arrêter le dessein de Dieu. Vous le savez, la fête de la lumière que nous venons de fêter a un autre pendant. Il y a une autre fête de la lumière, et c'est le samedi de la résurrection. C'est dans la nuit pascale que le cierge pascal entre le premier dans l'église, porté par le diacre, car il n'y a pas de plus grand service, le diacre c'est celui qui sert le peuple, et il n'y a pas de plus grand service que de donner le Christ, et il entre avec le cierge pascal dans l'église, symbole de cette lumière dans la nuit qui est là pour nous éclairer. Alors les conséquences sont grandes pour nous mes frères. Elles sont très grandes, car peut-être avez-vous déjà entendu dire « Oui, bien sûr, nous connaissons ces rites de la lumière. Ne sont-ce pas des rites païens ?» Alors je vous le dis tout net, oui, ce sont des rites païens. Dans toutes les civilisations antiques, dans toutes les civilisations païennes, il y a un rite de la lumière. Si vous connaissez la recherche de Déméter, la déesse de la vie, qui va chercher sa fille, qui justement est la déesse de la lumière, alors qu'elle est détenue prisonnière à l'Hadès, par le roi de l'Hadès, le roi Hadès, le roi des ténèbres, eh bien c'est déjà une fête de la lumière. Et vous pourriez ainsi collectionner dans toutes les civilisations beaucoup de fêtes de la lumière. Mais voilà, les chrétiens n'ont pas eu peur, justement, certains qui ne sont pas faits pour être enfermés et avoir un petit discours entre eux, ils n'ont pas eu peur d'aller chercher ces gestes païens, certains que c'était déjà une vérité, pour les amener à la lumière du Christ. Vous le savez, si nous fêtons Noël au solstice, c'est probablement que le Christ est né à ce moment-là. C'est une question disputée, mais ce n'est pas très grave. C'est en tout cas pour signifier qu'il est le Sol Invictus, une autre fête de la lumière païenne, le soleil invaincu, le soleil qui renaît à partir du solstice d'hiver, qui revient. Eh bien, ceux qui ont eu la foi dans le Christ n'ont jamais eu peur de christianiser, de sanctifier toutes les réalités humaines. Et c'est ça notre mission. Si vous êtes venu ici pour venir goûter à la lumière du Christ, à l'intimité de sa présence, votre mission est de repartir avec cette lumière, avec vous, pour la porter dans le monde et l'annoncer. Mais bien plus que cela encore, pour amener le monde ensuite au Christ, car rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu. Le chemin d'humanité que fait l'Église, c'est un chemin d'experts, avait dit le pape Paul VI à l'ONU en son temps, en défrayant la chronique. Il avait été invité gentiment en ami extérieur, et il s'est placé en expert de l'intérieur. Le chemin de l'Église est un chemin d'experts, un chemin d'humanité, nous avons à apporter la lumière du Christ partout dans le monde. Nous ne pouvons jamais avoir peur d'aucune réalité humaine, ainsi nous avons le pouvoir de sanctifier toute chose. Voilà ce que vous êtes venu faire, entendre cette parole vivifiante, mais plus encore, recevoir la force du Christ lui-même, pour qu'en repartant en mission dans le monde, durant toute cette semaine, dans votre famille, dans votre travail, dans la cité tout simplement où vous serez, repartir avec cette force intérieure qui peut apporter la lumière du salut, car nous ne voudrions surtout pas la garder pour nous-mêmes. Nous avons à l'apporter au monde en l'annonçant, en la réalisant par la charité et en la vivant tout simplement de notre vie. Priez Dieu que cette force se déploie en vous, que vous soyez chacun selon les grâces qui vous seront départies, selon les saints qui vous plaisent ou qui vous appellent, que chacun selon le mode particulier de votre vocation, vous puissiez vraiment être les sanctificateurs de ce monde par le Christ notre Seigneur. Amen.